Bon, alors c'était le Gloria de Vivaldi. Je pense que tout le monde est très surpris. Cette musique ne l'a jamais entendue de sa vie. Et c'est un peu le propos de cette rencontre, puisque Hervé Niquet, qui est le chef d'orchestre que vous avez entendu, avait à la tête de son ensemble le concert spirituel, vient à Bordeaux le 3 novembre pour donner cette musique. Et donc, on a un petit temps de partage. On va parler de Vivaldi, mais pas seulement, puisqu'il y a beaucoup d'actualités dans la vie d'Hervé Niquet. Alors, je reçois beaucoup de disques en tant que journaliste spécialisée, et je pense qu'en 5 ans, j'en ai dû recevoir 15 avec Hervé Niquet écrit dessus.
C'est pas assez.
c'est beaucoup. Entre, vous dirigez
que
le Bruxelles
15, Fier, la Manique. 15 en 5 ans. Ah, mais j'en ai fait plus que ça.
Alors, je ne les ai pas tous.
Ah non, vous ne les avez pas tous, non?
La musique française.
La musique française.
La musique baroque.
Oui.
Française et pas que, la preuve. Et aussi des opéras. On en parlera peut-être à la fin de cet entretien. On parlera de ce que vous faites avec le duo d'humoristes Shirley et Dino. Bon, d'abord, Vivaldi. Vous avez dit que c'était une musique très jouissive. Pour vous, c'est... Alors, attendez, je vous cite. L'euphorie en partition.
L'euphorie, on est quand même un peu payé quand on monte sur scène pour provoquer une quelconque euphorie. Euphorie, ça peut être tous les sentiments qui sont bouleversés et puis qui vous font... qui vous mettent dans un état pas forcément euphorique, mais voilà, c'est... Comme on dit au Canada, c'est brasser un peu tout ça. Et ça, c'est une euphorie, je trouve. Donc, on est vraiment là pour ça. Et puis, Vivaldi, c'est un peu comme Boismortier. C'est-à-dire, quand on sort d'un concert Boismortier ou d'un concert Vivaldi, on a tous un peu on va mieux. Hein, c'est ce que j'appelle la musique de dimanche matin. Vous savez, quand on se lève le dimanche matin, on a oublié d'annuler le réveil qui sonne à 7h12. Donc ça sonne, on l'éteint et on se rendort. Et je pense que c'est le meilleur moment de la semaine. Enfin, moi, je n'ai pas de dimanche, hein, mais j'espère que vous avez des dimanches. Et vers 10h, quand ça sent le café, on met de la musique. Ben, on met Vivaldi, Boismortier, et puis ça va mieux tout de suite.
Alors, il y a un truc très spécial avec ce Vivaldi, c'est qu'il n'y a que des filles qui chantent. C'est parce que vous ne trouviez pas de garçon qui était assez bon?
Alors ça, on peut en parler. Ça, on peut en parler parce que justement, j'ai fait des productions où il n'y a que des chanteurs hommes et des productions où il n'y a que des chanteurs femmes. Ben, je peux vous dire qu'on sent la différence parce que les mecs, ils n'arrivent jamais prêts. C'est vraiment... ça ne travaille pas aussi bien que les filles. Je suis au regret de le dire. Mais les filles, quand ça bûche, ça rigole pas entre elles. Oh, les gars, ils sont tous copains, hein. Mais le bordel quand même pour régir un paquet de mecs, c'est quand même... Donc dans le travail, c'est déjà... Alors, c'est vraiment un fait sociologique. Et je me suis rendu compte que les auteurs, quand il y a vraiment de la musique écrite pour femmes, elle est souvent beaucoup plus virtuose pour les ensembles pour femmes que pour les ensembles pour hommes. C'est couillon, hein, mais c'est
comme
c'est
ça vrai. A toujours été comme ça.
Ah ben, je pense que ça a toujours été comme ça. Et c'était quoi la question? Qui avait certainement l'air très intéressant, je ne m'en souviens plus.
Pourquoi il n'y a que des femmes qui chantent Gloria?
Alors, je vais vous faire une réponse de jésuite. Pourquoi pas, d'abord, hein. Et ensuite, c'est absolument historique. Je vous expliquerai après qui était Jacques Mauduit, mais dans une préface vers 1740, je crois, il a composé des airs à 1, 2, 3, 4 ou 6 parties. Il met, pour pouvoir les jouer, que... En principe, dans les couvents de femmes, il n'y a pas d'hommes. Mais on pourra quand même jouer ma musique si on fait une certaine manipulation. Et en principe, dans les couvents d'hommes, il n'y a pas de femmes. Donc vous ferez l'opération inverse et vous pourrez chanter la musique. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que, par exemple, on a 3000 messes en France qui sont écrites en parties séparées. C'est-à-dire que vous pouvez acheter les parties séparées. Il n'y a pas ce qu'on appelle un conducteur où toutes les parties sont écrites. Mmh. On s'est longuement demandé pourquoi. En réalité, c'est pour une raison commerciale toute simple. C'est que... je vous explique le pourquoi du comment, parce que vraiment, les gens ont été très étonnés d'écouter cette version originale du Magnificat et Gloria de Vivaldi que tout le monde connaît en tant que choriste amateur, tout le monde l'a chanté. Tout simplement parce que les compositeurs, je vous rappelle que les droits d'auteur n'existent pas. Ils sont rétribués à la commande. Hein. et rétribuer à la commande et à la vente. C'est-à-dire, une fois que le clergé vous a payé, il a acheté, le clergé a acheté le Magnificat de Vivaldi, mais il a reçu tant d'argent, c'est fini pour lui. C'est fini. Hein. Peut-être il sera payé comme chef d'orchestre s'il le dirige, ou dans sa charge de maître de chapelle, mais il ne touchera plus d'argent sur la partition. Donc il a intérêt, comme c'est une bonne œuvre, à ce qu'on en achète le plus possible. Donc le père Vivaldi, je vous raconte l'histoire, il a écrit ça à la demande de l'Hospédale de Venise, donc là il n'a que des filles, hein, puisque c'est le propre de cet orphelinat de jeunes filles, donc il a écrit, il a deux tribunes, donc il s'est amusé à écrire deux chœurs de femmes, deux voix à droite, deux voix à gauche. Cette œuvre a du succès, parce que les moniales qui tiennent l'orphelinat ne sont pas stupides. Elles aiment bien l'argent, hein, parce qu'il faut le retenir quand même, l'orphelinat. Donc, elles ont institué les concerts payants. Hein, et elles ont évidemment engagé un bon maître de chapelle qui était connu pour ça. Donc, voilà, il faisait bien du monde. Et lui, évidemment, il aurait aimé avoir de l'argent, mais il n'en aura pas plus du clergé, sauf qu'à chaque fois qu'il remplit sa charge. Donc, il a édité, chose que tout le monde faisait, il a édité sa partition pour des éditeurs italiens, français, hollandais, parce que les Hollandais étaient des grands faussaires. On copiait, on imprimait, puis on vendait sans payer à l'auteur. Bref, on avait déjà des problèmes avec les éditions, avec la SACEM, avec les éditions et tout ça. Et donc Vivaldi a composé une version pour qui pouvait passer absolument partout, à quatre voix mixtes, soprano, alto, ténor, basse. Et ça s'est vendu comme des petits pains.
Et c'est celle-là qu'on connaissait dans les années.
C'est celle-là qu'on connaît, bien sûr. D'accord. Et que tout le monde connaît.
Et alors, celle pour voix de femme, celle originelle qu'il a écrite pour l'Hospedale della Pietà, elle était où ? On l'a retrouvée récemment ?
Non, on ne l'a pas retrouvée, mais c'est très très simple à recomposer. La partition est comme ça, celle que Vivaldi a sortie. Ben vous prenez ça, puis vous remettez ça là. C'est-à-dire, vous avez deux voix de soprano alto, ben la voix de ténor et basse, c'était la pratique à l'époque, ben vous la prenez, hop, soprano et alto, ça vous fait deux voix de soprano.
Un octave au-dessus.
Voilà, une octave au-dessus. Et vous avez la partition. Alors, il y a quelques arrangements, évidemment, il faut connaître le style et tout ça, c'est un peu technique, mais le travail est archi simple. Et c'est donc ce que vous entendrez. Et le spectre sonore, alors vous allez découvrir des choses, c'est-à-dire la ligne de soprano va complètement changer, parce que le croisement de la ligne de soprano principale est très très loin de la partie de ténor qu'on connaît. Là, elle va se rapprocher et faire des frottements qui vont exciter les messieurs de toute l'Europe.
C'est vrai.
Il y a des témoignages de, par exemple, Jean-Jacques Rousseau ou Charles Burney qui parlent justement de ce spectre sonore de frottement. Les dissonances exaltent les passions, disait Rameau, et ça excitait les vieux messieurs qui, évidemment, quand on passait à Venise, il fallait écouter le chœur de l'Hospédale parce que c'est...
Et qui fantasmait sur les jeunes filles.
Oui, alors
si
évidemment, évidemment.
Qui étaient planquées.
Ces jeunes filles qui n'étaient pas toutes de première fraîcheur d'ailleurs, mais avaient eu des conditions. Elles étaient acceptées parce qu'évidemment, plus d'argent, abandonné, etc. Et elles avaient des conditions de vie où elles avaient eu des conditions de vie déplorables, surtout d'hygiène. Donc, d'en bas, cachées par les rideaux, c'était la voix des anges, c'était la voix du paradis, c'était extraordinaire, l'harmonie céleste. Et évidemment, elles étaient cachées par les rideaux, on n'avait pas le droit de les voir. Et Rousseau, qui était déjà très connu, avait obtenu de l'évêché de Venise de pouvoir accéder à la tribune pour rencontrer ses jeunes filles, ses anges. Mmh. Et mal lui en a pris parce que, évidemment, il y en a une, il raconte qu'il lui manquait un œil, l'autre avait un pied beau, l'autre n'avait plus de dents, l'autre était complètement vérolé, l'autre n'avait plus de nerfs. C'était, je pensais, monter au paradis, disait-il, et je suis descendu dans l'enfer.
Donc, il fallait mieux fermer les yeux.
Donc, le vieux pervers qui était Rousseau, il a vite été remis à sa place. Donc, voilà, c'est une chose à écouter à Venise quand on passe à Venise.
Mais alors, les femmes n'ayant pas le droit de chanter, ces concerts, c'était des messes ou...
Non, c'était des concerts.
C'était des concerts.
Attention, ce sont des concerts. Là, vraiment, les religieuses faisaient de l'argent avec ces concerts.
Mais alors, elles enfreignaient le diktat du Vatican en faisant chanter des femmes en dehors du culte.
Alors ça, j'avoue que je ne sais pas comment ça se passait, si elles avaient une dispense. De toute façon, vous savez, quand je vois qu'on a le droit d'acheter des indulgences, et même encore maintenant, j'ai appris ça, mais c'est ahurissant, moyennant un peu d'argent, c'est-à-dire un mécénat à l'Église, sonnant et trébuchant, vous avez le droit vous achetez des indulgences, c'est-à-dire quelques années de purgatoire en moins. Non, mais... Donc j'imagine que les religieuses ont dû s'arranger avec le Vatican, moyennant quelques monnaies. J'imagine. On en apprend tous les jours. Hein.
Oui, c'est terrible. Ce Gloria de Vivaldi, il est aussi connu, enfin intéressant, pour la disposition en double cœur, qui est un truc que Vivaldi fait souvent,
oui,
que Bach faisait aussi.
Ça va dépendre. Bach, il a fait ça quand il a pu faire ça pour la Passion selon saint Matthieu. Il avait d'énormes moyens. Mais là, c'était juste la géographie. C'est-à-dire, quand vous allez, on peut encore aller à la chapelle de l'Hospédal visiter à Venise. Ça donne sur un des canaux latéraux. Il y a une petite place devant qui donne juste sur le canal. Vous entrez et vous voyez l'église, la clôture, l'hôtel. Et de chaque côté, vous avez un balcon, enfin deux tribunes opposées avec un genre de claustra ouvragé, avec un petit tissu derrière. Avec un petit orgue sur chaque tribune. Donc, il s'est dit, je vais les mettre là, puis je vais faire un genre de stéréophonie. C'était un jeu complémentaire. C'est très simple, c'est bêtement, prosaïquement, c'est j'ai ça, je vais faire ça.
Et vous avez reproduit cette disposition dans le concert ?
Oui. Vous verrez quand on le fera le 3 novembre. Plus j'ai d'espace, plus je suis content de séparer les deux groupes de... Alors, je n'ai pas poussé le vice à ce que l'orchestre, il n'y ait que des filles aussi. Hein, mais bon, c'était le cas à l'époque. Mais j'essaie d'éloigner les deux groupes pour faire... Vous verrez, il y a un des psaumes, une paire de psaumes, où il y a une joute vraiment entre le chœur 1 et le chœur 2. Et c'est vraiment du théâtre. Et donc, je me souviens, c'était à Utrecht qu'on a donné ça cet été. Et je regardais le public, je ne regardais plus mes filles qui chantaient, puisqu'elles se répondaient.
Oui, vous prenez un malin plaisir à ne pas trop les diriger à certains moments.
Non,
elles
les mettent un petit peu dans la difficulté, comme ça, elles sont obligées de se prendre en main, c'est rigolo. Et donc, je voyais le public, comme à Roland-Garros, faire comme ça. C'était drôlissime, mais c'était utile. Il fallait faire ça pour suivre l'action. Donc, Vivaldi réussit avec juste un angle différent et deux groupes à créer une interactivité, on n'appelait pas ça comme ça, mais du public qui rentrait dans le match de tennis. C'est formidable.
Alors, lors de ce concert, en plus du Gloria, il y a le Magnificat, les psaumes que vous avez évoqués, et puis il y a du Campra. Alors, Campra, c'est un copain de Rameau, c'est un contemporain de cette époque-là. De Lully et
Campra,
compagnie.
C'est encore un curé. Ah, il y en a partout, ma brave.
Les messes, c'est votre truc. Vous êtes un peu un Vivaldi.
Non, mais moi, j'ai été élevé chez les religieuses, donc les Ursulines. Donc, je me souviens avoir poussé Sœur Marie-Jeanne d'Arc du banc de l'orgue pour prendre sa place, parce qu'elle n'était vraiment pas bonne, la pauvre. Non, mais bon, je l'aimais bien. Par contre, elle m'a appris à faire... un discours rhétorique, une dissertation, c'était formidable. Mais Sœur Marie-Jeanne d'Arc, elle était
c'est
vraiment...
C'est pas elle qui vous a appris à jouer de l'orgue, rassurez-nous.
Non. Et donc voilà, moi j'ai appris mon métier à travers la liturgie. Donc je sais ce que c'est qu'une liturgie, je sais ce que c'est animer une messe de l'orgue. Donc les textes liturgiques m'intéressent bien, d'autant que je vais vite me rendre compte que pour la musique baroque, faire un grand motet français, donc il y a une place vraiment importante dans la littérature religieuse en France, c'est faire de l'opéra à l'église, sans les emmerdements du metteur en scène hystérique, de la chorégraphe anorexique, du décorateur fou, du costumier qui est toujours en retard, que la danseuse qui est passée, que gna gna gna, vous faites votre propre mise en scène. C'est-à-dire, il y a aucun problème technique, c'est vous qui réglez les images que le public aura avec le même matériel musical. Et voilà, je me suis rendu compte que 17e, 18e, il y a plus de 3000 messes en France. Il y a 1500 grands motets. Qui les joue ? Personne.
Vous en avez fait quoi, 10% ?
Ah non, on voulait dire 2%.
Et alors, cette messe de Campra, elle est aussi jouissive que Vivaldi ou...
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut reparler de l'éducation. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en France, l'éducation musicale a été tuée par les révolutions françaises. Quand on voulait devenir musicien, il fallait rentrer enfant de chœur. Il n'y avait que les aristocrates qui pouvaient se piquer de donner des leçons de musique à la maison à leurs enfants. D'ailleurs, ils n'en prenaient à lire, on apprenait. Mais...
Vous parlez de la crise des conservatoires aujourd'hui, là, en fait.
Ah, je peux bien en parler.
Même débat.
Exactement, même débat. Non, c'était plutôt les aristocrates qui faisaient par plaisir et par conviction la musique. Mais pour l'éducation, il fallait rentrer enfant de chœur. Et donc, vous aviez 6 ans. J'ai vu une thèse de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, je retrouverai ça, je vous dirai. Un type qui a retrouvé tout l'horaire d'un maîtrisien qui rentre à la Chapelle Royale à Versailles. Les gamins, ils sont levés à 5h30. Études des textes grecs et latins jusqu'à 6h30. On a un verre d'eau et une pomme à 7h. Ensuite, on monte à la chapelle lire l'office qu'on va chanter à 8h. Ça dure une demi-heure, l'office. Et puis après, ils retournent aux études et on mangera que vers 11h30, quelque chose comme ça. Et puis alors, quand on est petit, donc on apprend la musique, mais pas en solfège. Ça n'existe pas, le solfège. C'est-à-dire, vous avez les plus grands du royaume qui vous composent pour les gamins qui vont lire à 7h la messe chantée devant le roi à 8h, ou les grands du royaume, ronde, blanche. On se rend compte que les gamins qui sont là-haut, les intervalles ne sont pas très grands pour ne pas se tromper. Mais le type qui compose a écrit une musique simple selon les gamins qu'il a cette année-là. Et il va les former à prendre une ronde, une blanche, et puis il va rajouter des noirs et des croches et des mélismes plus compliqués. Et les gamins, en une année, deux années, ils vont apprendre la musique comme ça. Collé à ça, dès qu'ils ont 6 ans, les textes latins et grecs. À partir de 8 ans, la mythologie. À 8 ans, s'ils veulent rester, il faut qu'ils composent à 8 ans un petit motet qu'on va chanter devant le roi. Moi, mes gamins, à 8 ans, ils faisaient encore des conneries. Et à 29 ans, elle est encore dyslexique. Enfin, vous voyez, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais
ça, c'était parce qu'ils étaient... C'était à Versailles. Enfin,
Non, c'était dans toutes les maîtrises de France et de Navarre. C'est ça qui a été tué. Et à 10 ans, on écrivait une petite symphonie. À 12 ans, on écrivait un grand motet. Donc, devant le chapitre, l'évêque, etc., ou le roi à Versailles. Et donc, tous les gamins qu'on vouait à la musique, à 12 ans, ils savaient écrire un grand motet français, c'est-à-dire 25 minutes sur les textes, les psaumes de David. C'est toujours un groupe de 4-5 solistes, le chœur à 5 parties et l'orchestre à 5 parties avec un continuo, à 12 ans. Et si vous étiez bon, vous restiez comme organiste, etc., etc., et vous deveniez maître de chapelle. Et l'éducation n'était donc pas théorique, elle était pratique. Et ceux qui restaient en bout de course, je veux dire, ils rentraient dans les grands orchestres, ou la maison royale, ou la chapelle, ou la musique de la reine, ou la grande écurie, ou en province dans les orchestres, ou à l'Académie royale de musique. Non, c'était une formation directe. Donc tout ça pour dire que ces messes, il y a 3000 messes pédagogiques pour apprendre à la nation française à lire la musique et avoir un style. C'est ahurissant.
Oui, donc dans ces 3000, il n'y a peut-être pas non plus 2999 chefs-d'œuvre. C'est ça qu'il faut comprendre.
Alors, on n'a pas le temps. Mais qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Quand vous apprenez à une nation entière ce qu'est l'art, la musique est un phénomène intellectuel, et avoir une suprématie sur toute l'Europe. Écoutez maintenant ce qui sort de nos conservatoires nationaux supérieurs de musique en composition. Des tombereaux de merde. C'est pas écoutable. Parce qu'on leur enseigne, je sais, je vois ça constamment. On leur enseigne l'art de faire l'orchestration, une mélodie ou tout ça, et les professeurs leur disent, surtout ne fais pas ça, tu ne pourras pas en vivre. Tu n'utiliseras, il faut que tu saches ça, mais tu ne l'utiliseras pas. Vous imaginez? Eh bien là, on est en prise directe avec la réalité, parce que le juge suprême, c'est le roi qui vient à l'office à 11h ou qui vient écouter le gamin de 12 ans qui a composé son motet pour rester dans sa maîtrise. Dites donc, si François Hollande, il écoutait tous les prix du Conservatoire supérieur de musique, tous les ans.
Le pauvre.
Oui, ce que je dis, c'est complètement abstrait, vous voyez. Alors que là, c'était en prise directe avec la réalité, c'est un outil de pouvoir. C'est pas anodin. Et ça, jusque dans la dernière province française. Et le chapitre du coin va avoir le même souci pour la formation de ses maîtrisiens.
On a gardé toutes ces messes. Parce que bon, finalement, le gamin à 12 ans, il en fait une, très bien, il ne reste pas...
Non, mais ça, je vous parle des messes écrites par les compositeurs, les maîtres de chapelle qui avaient charge de formation. Et dans le... J'ai trouvé... Campra, par exemple, il avait une charge à Toulouse de maître de chapelle. Eh bien, dans son contrat, on voit le nombre de miches de pain, de litres de lait, d'eau, de farine, de blé qu'il a pour nourrir ses maîtrisiens, le salaire de la cuisinière qui va être inclus dedans pour nourrir toutes ces... Il a charge de former la musique de la ville. Donc son matériel pédagogique, il a été engagé parce qu'il est très bon, il doit être à la hauteur de ce qu'il a été payé pour ça. Donc le moindre matériel pédagogique est extraordinaire. Ça vous embouche un coin.
Oui.
Ben oui.
Bon, ce qu'il ne me dit pas, si cette messe est sympathique ou... Parce que pédagogique, ce n'est pas très sexy, ça ne donne pas vraiment envie.
Non, mais pédagogique, quand on voit nos ministres de la culture actuels, c'est sûr que ce n'est pas sexy. Je veux dire, l'état du ministère de l'Éducation nationale, la déprime des enseignants face à... C'est consternant. Le matériel pédagogique de cette époque, on ne fait pas de la pédagogie, on apprend l'art. C'est-à-dire, c'est du vrai, on n'est pas dans un concept... Non, on est en prise directe. Et c'est donc... Moi, j'en ai lu, mais des petits maîtres, alors ça va vous faire rire, évidemment, les messes de Chin, les messes de Pétouille ou de François du Tartre.
Ah oui, c'est toujours des noms improbables. Le dernier en date s'appelle Plantade.
Je pense Charles-Henri Plantade, qui est un génie.
Mais qui...
Je peux vous parler aussi de Raoul Defesse, de Maurice Charlot ou de Monsieur Véronge de Lanux, des grands maîtres français.
Mais je pense que c'est comme ça que vous les recrutez, en fait. Vous allez à la BNF et vous demandez tous les noms improbables.
Non, je les trouve. J'ai un goût pour ça. Bon, bref, tout ça pour dire
plus
que...
Il y a un rayon Hervé Niguet à la BNF.
Il n'y a pas de petit maître. Il y a un maître qui sait son métier. Sans ça, vous ne devenez pas maître. C'est-à-dire que vous avez... Il n'y a pas de franchise à l'époque. Hein, maintenant, vous ouvrez une pâtisserie Paul, ben vous achetez la franchise. Et puis, il sait ce qu'il fait. Il lit dans son laboratoire. Mais pour être maître à l'époque, vous êtes jugé par vos pairs, savoir si vous avez le droit d'avoir la maîtrise. Et vous devez faire un chef-d'œuvre pour être maître. Ben, je peux vous dire que pour qu'une maîtrise, même dans le fin fond de la Gironde, qui va se payer un petit évêché, un maître de chapelle, ils vont vérifier le niveau du type s'il a sa maîtrise. Et je peux vous dire que ces pairs qui l'ont jugé sont très, très exigeants parce qu'ils ne vont pas laisser rentrer n'importe qui dans leur corporation. Donc le niveau est très élevé. Et même pour écrire au fin fond de la Gironde une petite messe à quatre voix, le niveau, mais... Je donne ma main à couper qu'il n'y a aucun des compositeurs, ce qui s'appelle compositeur qui sort du CNSM, qui est capable d'écrire une messe sur un texte liturgique à quatre parties pour éduquer des maîtrisiens pour l'élévation de l'âme et le service liturgique. Aucun.
Alors je fais une petite...
Donc c'était bon la réponse ou...
Très bien, je sens que Campra... On est à fond. Alors, ça me fait penser tout ce que vous décrivez au Prix de Rome, parce qu'il y a une autre partie de votre discographie qui est toutes ces pièces qui ont été composées pour la Villa Médicis, pour le concours. Donc, il y a Debussy, il participe, Ducas, Ravel qui ne l'a jamais eu et qui a fait...
Saint-Saëns.
Saint-Saëns,
c'est ahurissant. Enfant surdoué, un génie, vraiment un génie. Il passe le Prix de Rome... dès la limite d'âge basse, c'est-à-dire à 17 ans ou 18 ans. Alors évidemment, c'est génial, mais les juges lui disent « Écoutez, mon cher ami, vous êtes quand même très jeune. On a d'autres gens à faire passer qui sont plus dans le métier. Revenez l'année prochaine, postez-le l'année prochaine, vous l'aurez parce que vu votre niveau. » Le gars, il oublie. C'est-à-dire, à 29 ans, il se représente parce que sa maman, elle aimerait bien qu'il ait le prix de Rome. Il faisait déjà une carrière énorme. Et le jury lui dit, oh, dites donc, monsieur Saint-Saëns, vous êtes sur toutes les affiches dans le monde entier, on ne va pas vous donner, il y a d'autres gens quand même, vous n'avez plus besoin de ça. Il ne l'a jamais eu.
Mais il a fait exactement pareil avec Ravel.
Oui, c'est pareil.
Alors qu'il était membre du jury, il a envoyé...
Mais bon, mais tout ça est cohérent. Bon, alors vous disiez...
Est-ce que c'est intéressant, ce qui est composé pour ce concours?
Mais quelle question.
Est-ce qu'il y avait des contraintes?
Je vous explique ce qu'est le concours de Rome. Napoléon Ier a acheté une petite maison au-dessus de Rome.
Une petite bicoque sympathique.
Oh, j'y ai dormi plusieurs fois dans la chambre. C'est un des plus beaux lieux du monde. Mais je peux vous dire que ce n'est pas du tout confortable. Hein. Vous savez, c'est les salles de bain que vous faites ça, puis c'est... Le robinet n'est pas bien mis. Mais dans tout le bâtiment, on sent que vous prenez votre douche. C'est formidable. Mais c'est un endroit incroyable. Donc Napoléon Ier achète cette villa sur les Hauts-de-Rhône pour y mettre en résidence 2 ou 3 années l'élite de la nation, sur tous les arts, pour... il leur offre le gîte, le couvert et de l'argent de poche pour qu'ils s'adonnent à leur art, pour que l'élite française... Voilà. Pour choisir ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est jusque dans les années 50, 60, hein, c'est récent, hein, que le prix de Rome est arrêté. Ça se passe au Conservatoire supérieur de Paris, national supérieur ou impérial supérieur. Déjà, pour rentrer dans cet établissement, il faut passer un concours difficile pour rentrer dans les classes des maîtres. Donc, on a déjà une élite des étudiants. Pour passer le concours, les professeurs, qui sont des grandes stars à l'époque, hein, qui donnent leur classe, vont choisir les meilleurs de leurs élèves. C'est donc l'élite de l'élite. Hein. On va passer un premier tour éliminatoire. On va garder pour le second tour, donc, l'élite de l'élite de l'élite. D'accord ? Et c'est toujours les stars qui sont dans le jury, c'est-à-dire les grands compositeurs qui jugent, hein, ce qu'ils vont avoir comme successeur. Et au deuxième tour, ils vont avoir le prix de Rome, c'est-à-dire ils vont recevoir un premier prix pour une cantate, et ils vont être 3 ans. C'est-à-dire qu'on aura l'élite de l'élite de l'élite de l'élite de la nation qui va aller à Rome. Ah ben, pétard ! C'est considérable. Et alors on me dit, ouais, mais il y en a plein qui ne sont pas connus. Mais ils ne sont pas tous fous. Parce que pour être compositeur, il faut être quand même tapé. Hein. C'est un boulot de chien. Quoi. C'est des heures d'angoisse, d'écriture, de pression, de critique, etc. Donc il y a des gens ou qui ne supportent pas, qui vont faire autre chose, tout simplement. Moi, j'ai plein de copains du conservatoire et de la vie qui ont fait autre chose. Et je peux vous dire qu'ils gagnent plus d'argent que moi. Hein. Voilà, mais ils savent écrire une cantate ou un opéra, les types. Mais ils ont laissé tomber. Ou alors il y en a d'autres qui s'emmerdent vraiment dans l'opéra, donc ils vont faire de l'opérette ou des chansons. Et puis moi j'ai connu Gérard Calvi, vous savez, qui était Grand Prix de Rome quand même. Il est mort récemment. Il était le musicien des Branquignoles. Tous les hommes sont idiots, c'est pas leur faute. Tous les hommes, etc. Il a écrit avec les Branquignoles des comédies musicales. Ce type était prix de Rome. Un orchestrateur, mais génial. C'est le père de Calvi, vous savez. Yves Calvi, voilà. Et ce type était prix de Rome, mais il voilà, pas voulu s'emmerder, écrire des symphonies. Il s'est marré toute sa vie. Donc voilà, c'est un panel de gens qui ont fait autre chose que d'écrire de la musique sérieuse.
C'est vrai qu'on a l'impression que tous ceux qui sont connus aujourd'hui, les grands compositeurs, Debussy, Ravel, tout ça, ils ne l'ont pas eu. Alors on se dit...
Alors Debussy l'a eu.
Oui, Debussy l'a eu. Ravel, Saint-Saëns.
Oui, mais tous ces jugements sont à l'emporte-pièce. Il faut vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. On a dit, oui, tout ça est conventionnel. Mais en fin de compte, oui, les textes qu'on leur donne sont niaiseux. Mais c'est fait exprès. C'est plus facile d'écrire un opéra ou une cantate ou un chœur sur un texte fait pour ça, hein. Et il leur donne des trucs, mais tartignoles, mais c'est un bonheur. Et moi, j'ai enregistré là des textes, des musiques de Max Dolon ou de Dukas.
L'apprenti sorcier.
Oui, il a fait une carrière avec ça. Les textes qu'on leur donne, mais sont godiche, tartignoles de première, mais avec vraiment une prosodie un peu compliquée, c'est-à-dire c'est de la poésie de banlieue, enfin voilà, c'est volontaire. Et les types en font des chefs-d'œuvre. Ils ont 19 ans, 22 ans, mais c'est à tomber la renverse. Je suis mais stupéfait du niveau de ces gens. Ils vont sortir de là une mélodie, une orchestration avec des contraintes imposées, hein, puis la cantate selon les années, c'est un soliste, 2 solistes, 3 solistes, enfin, c'est très complexe. Et on voit des gens déjà aboutis à 21 ans. Debussy l'a passé 2 fois. La première année, sa cantate a eu le second prix, donc il ne l'a pas eu, avec le gladiateur. Le gladiateur. Alors là, on voit qu'il met dedans tout ce qu'il aime. Tout ce qu'il aime. Alors, vous avez du Wagner, du machin, du truc. Mais il y a déjà Debussy. L'année suivante, il reconcourt, il fait le fils prodigue. Il a 22 ans, il n'a même plus besoin de travailler. Tout est là, c'est-à-dire il a réfléchi pendant une année. Tout. Il a 22 ans. Donc, qu'on vienne pas me dire que c'est un ramassis de vieux croutons. Non, les gens qui sont en jury, eux, ils remplissent l'opéra tous les soirs avec leurs ouvrages. Ou même l'opéra comique, ou l'opérette, ou le théâtre des Italiens, ou le théâtre des Nouveautés, c'est des stars. Donc, ils voient qui vont mettre sur le marché. Non, non, c'est pas... C'est très, très haut niveau. Donc voilà, ça me passionne.
Ça, c'est... Oui, ça vous passionne la musique française, alors que... voilà,
que,
vous connaissez
alors que...
plus... laissez-moi finir. Que vous avez fait votre réputation sur le baroque. Il y a une continuité, c'est une évidence ou c'est juste...
Oui. Évidemment, c'est une évidence. C'est...
Enfin, entre Plantade et Debussy, c'est tout droit.
Ah, mais c'est absolument tout droit. Et c'est même plus flagrant que ça, puisque vous me parlez de Debussy. Je vous parle de Ravel. Dans Le Fils prodigue, alors vous savez que Lully, par chance, était italien. C'est lui qui a fixé les canons de la musique française. L'opéra en loi, lui, la façon. Pourquoi ? Parce qu'il était étranger. C'est-à-dire qu'il a pu, de l'extérieur, quantifier mathématiquement comment parlait la langue française. Il a analysé. Et avec un centimètre et tout, eh ben, il a retracé le profil exact de la langue française parce qu'il n'était pas français. Il a observé, il avait du mal à parler jusqu'à la fin de sa vie. On comprenait difficilement Lully. Eh bien, il a quantifié, je n'ai pas d'autres mots, avec ses cinq lignes, son crayon et ses petites notes, le parler exact français. Et le débit irrégulier. Par exemple, là, je viens de faire le débit irrégulier. J'ai changé de mesure. Le débit irrégulier. Voilà, je suis passé de 2 à 3 bits. Tout ça est quantifiable. Voilà. C'est très simple. Hein. C'est des mathématiques. C'est de la mathématique. Donc, il a fixé ça. Et l'opéra de Lully est assez compliqué à diriger parce que toutes les mesures, vous changez de mesure pour garder le naturel. Debussy, qui a 20 ans, qui est fier comme Artaban et qui pense qu'il va apprendre tout au monde, il réinvente la musique française. Il ne connaissait pas encore les opéras de Lully. Il va faire le même travail que Lully. C'est-à-dire, dans le récitatif de l'enfant prodigue, toutes les mesures des récitatifs changent de mesure pour donner, avec des erreurs, parce qu'il en est au début. Il vient de comprendre qu'il faut tout quantifier. Lully, 300 ans avant, avait découvert ça, il l'avait déjà fait. Si ça, ce n'est pas une filiation, je ne sais pas ce que c'est. Une autre question ?
Et pourquoi il n'en avait pas... Il avait aucune trace du travail que Lully avait fait, même
ben,
Lully quand même.
C'est comme les jeunes couillons, ils pensent qu'ils vont révolutionner le monde. En fin de compte, il n'a rien inventé. Il n'a rien voulu savoir avant. Grand talent quand même. Hein. Il a pris le minimum et puis il dit, ben, je vais faire un truc nouveau. Pas de peau, 300 ans que c'est inventé. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a comme support ? Le français, son rythme, sa prosodie, ses couleurs, etc. Si ça, je redis, hein, si ça, ce n'est pas une filiation...
On va fêter les 120 ans de la librairie Mola. Et vous avez, le concert spirituel va avoir 30 ans ?
30 ans, oui.
Ça ne nous rajeunit pas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour les 30 ans ? Puisque vous venez jouer pour les 120 ans, est-ce que Denis Mola vient faire un truc pour vos 30 ans ?
Ben, j'espère bien. On va en parler, d'ailleurs. Oui, on va en parler. Moi, j'ai jamais vu de concert de chef tout seul. Ça a l'air con, un chef tout seul. Hein. Ça ne produit rien du tout. Mais rien. Rien de rien. C'est couillon, un chef sans orchestre, sans chanteur. Mais rien de ça. Vous pouvez même en mettre plusieurs en même temps. Rien.
C'est pour ça qu'on les met de dos.
Voilà, c'est plus prudent. Tiens, d'ailleurs, si vous aimez la musique, allez voir sur YouTube l'un de mes modèles. Ce n'est pas un chef d'orchestre, c'est un acteur qui s'appelle Danny Kay. Hein, peut-être Hervé Niquet, Danny Kay. Bon. C'était un acteur de comédie musicale, le film américain, mais extraordinaire. Et un jour, pour une soirée de fundraising, c'est-à-dire de mécénat pour l'Orchestre Philharmonique de New York, Zubin Mehta lui prête son Orchestre Philharmonique de New York dans les années 60-65. C'est ahurissant. Le type dirige, mais c'est un acteur qui n'a pas besoin d'orchestre. C'est le seul chef d'orchestre que j'ai vu ne pas avoir besoin de chef d'orchestre. Et il fait marrer tout le monde. On entend tout ce qu'il fait, rien qu'avec sa bouille et ses trucs. C'est extraordinaire. Allez voir ça si vous aimez. Danny Kay, Philharmonique de New York. Donc tout ça pour dire les 30 ans du concert spirituel. Donc un chef tout seul, ça ne fait pas grand-chose. Donc, je pense que la récompense, il faut la donner aux musiciens. Et avec l'argent que j'ai, je vais multiplier les concerts et faire des choses. Pour nos 15 ans, vous savez, on a fait Fireworks et Water Music comme Handel voulait, avec 24 hautbois, 18 bassons, 2 contrebassons, 50 cordes, 9 cordes, 9 trompettes, 3 postes de percussion. Jamais personne ne l'avait fait. Je me suis ruiné pendant une année, mais je l'ai fait. Avec feu d'artifice, on l'a fait à tous les coins du monde. Et pour les 20 ans, ou 25 ans, oui, les 20 ans, on a fait un travail avec les chanteurs sur la messe de Strigio. Ça faisait 30 ans que je voulais la faire, dont l'Agnus Dei est à 60 voix. Et je vous dis, quand j'ai auditionné pour avoir 60 chanteurs, j'en ai auditionné 283 par paquet de 8, pour voir comment ils pouvaient se mouvoir dans une polyphonie très complexe. Et donc on s'est réjouis tous ensemble en mettant les plus grosses équipes possibles. Et c'est ce qu'on va faire à peu près. Là, on va faire un programme bénévolo, Ratio Bénévolo.
Encore un nom couché dehors.
Il a failli être français parce que son papa était pâtissier à Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne. Il a émigré vers Rome, où il a fait sa carrière de pâtissier. Et son fils était petit enfant de cœur à Saint-Louis des Français, la paroisse des Français à Rome. Si vous mettez un sou dans la boîte, vous verrez dans la chapelle en haut à gauche, il y a un Caravage. Caravage ? Il y en a 3, voilà.
Oh, il y en a qui suivent.
Voilà. Et comme les Italiens sont pingres, et vous mettez ça, le temps de pouf, ça t'éteint. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette les sous là. Et donc il a été enfant de cœur là. Il a gravi les échelons que je montrais. Que je vous donnais précédemment, il a terminé maître de chapelle à Saint-Louis des Français, puis après il a été maître de chapelle Saint-Pierre du Vatican quand même. Donc c'est une grande star. Il a un opus, mais considérable. Il a écrit, mais personne s'occupe de lui, mais un opus bien plus grand que celui de Poulenc. Il a fait des trucs absurdes. Par exemple, des motets pour 12 duos de soprane et basse. Donc il faut que vous ayez dans l'église 12 duos avec chacun d'instruments. Il a fait des messes à 12 chœurs, enfin des trucs mais ahurissants. Voilà. Donc c'est un grand auteur. Et pendant l'année prochaine, on va faire une messe à 8 chœurs de bénévolos.
Il y en a encore beaucoup, les compositeurs comme ça. Dont
ah, mais il y en a plein, il y en a plein partout. Il y en a plein, ça regorge. L'Espagne, on a lu 1% de la production musicale espagnole entre le 15e et le 19e siècle. 1%.
Donc ceux qui disent que le mouvement de redécouverte du baroque là, arrive à sa fin, s'essouffle, ont tort.
Non, ça, c'est l'aspect commercial qui bouffe tout. Mais il y a tout à faire encore. Hein.
Ah, c'est-à-dire qu'on va refaire des trucs, mais personne n'ira les écouter parce que...
Oui, et puis il n'y a plus de recherche, pas assez de recherche fondamentale. Maintenant, on apprend un métier pour faire la musique ancienne, comme on apprenait la musique classique. Mmh. Et j'ai des interprètes, parfois, qui n'ont jamais entendu parler de tremblements appuyés, coulées de tierces ou pans de voix. Ils ne savent pas lire une clé française, 18e, par exemple. Ah, mais j'ai appris le métier, je sais, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc ça, c'est assez triste, c'est ça qui me... Donc on a lu à peine 8% de la production italienne, musique française peut-être 12%, musique allemande... Voilà, donc il y a énormément de choses, il y a plein de choses. Donc voilà, il y a encore des siècles de découvertes.
Alors parmi ces découvertes qu'on vous doit, il y a Don Quichotte et la Duchesse.
Don Quichotte chez la Duchesse. C'est dur à dire. Hein.
Mais sans les chaussettes, c'est...
Voilà, ça c'est terrible.
Et alors on en parle aussi parce que bon, c'est un DVD qui a eu beaucoup de succès l'année dernière. C'est une tournée et qui va passer par chez nous à la fin de la saison 2017, là, je crois au mois de mai, au Pin Galant. Donc c'est génial, Don Quichotte.
Pourquoi c'est génial ? Tiens, je vais faire une interview. Attention, accrochez-vous. Pourquoi c'est génial ?
Alors, parce que ça mêle l'histoire de Don Quichotte qu'on connaît, sauf que tout ça est mis dans un contexte 18e, donc une duchesse qui lit le roman. Elle est assez fantasque et elle a un mari qui essaye de cadrer un peu les choses. Et alors qu'elle est en train de lire, Don Quichotte arrive chez eux.
Oui, c'est une mise en abîme extraordinaire.
Voilà.
C'est-à-dire, elle lit Don Quichotte chez la duchesse et dans le livre, elle s'aperçoit qu'il arrive chez elle. C'est formidable comme idée de départ. Et alors, à part ça, vous avez aimé quoi ?
Alors, certains d'humour, parce que la mise en scène est quand même...
C'est un opéra comique, évidemment.
Donc, vous avez fait appel à Shirley Dino, que vous aviez déjà recruté pour le King Arthur. Et bon, vous aimez ça, ou vous aussi danser, jouer la comédie, parce que c'est ça qui est drôle aussi, c'est que vous ne restez pas dans votre fosse.
Bon, alors, moi, j'observe beaucoup qu'on met beaucoup d'argent dans les drames et tout ça, et les grands ouvrages où tout le monde meurt à la fin, il y a du sang partout, il y a des sentiments humains, et problèmes d'amour, et problèmes de ceci, d'impôts, de guerre, de trucs, enfin bon, bref. Oh là là, là là, là là, là là, là, c'est quand même... Et quand à chaque fois que je vais aux USA ou à Londres, ou je vais à Broadway, ou je vais dans la grande rue, là, à Londres, tout le quartier où il y a tous les... voir des comédies musicales. Non, mais il faut faire ça. Si un jour vous payez le luxe d'aller à New York, mais passer tous vos soirs à Broadway à changer de comédie musicale. Mais Dieu, qu'est-ce qu'ils aiment ? Ils aiment rigoler et s'amuser. C'est pour moi le vrai opéra contemporain. C'est-à-dire... tout le monde participe, tout le monde se marre. C'est un art total, c'est-à-dire c'est la reprise de la tragédie lyrique française. Il vous faut une bonne histoire, des bons chanteurs, un bon metteur en scène, des bons décors, des machineries, des danseurs au top, des chanteurs au top, des acteurs extraordinaires. C'est une tragédie lyrique.
Oui, et des fois, la musique, c'est pas trop ça. Hein.
Enfin, c'est-à-dire
Andrew Lloyd Webber, c'est pas...
Moi, j'ai pleuré à Jésus-Christ Superstar.
Voilà.
Non, mais ils savent aller vous... Mais si, c'est le bon commerce, mais si, c'est formidable. Cats, Barnum, 42nd Street, Stomp, c'est extraordinaire. Eh bien, en France, on ne sait pas ce qu'est une comédie musicale, difficilement, et alors que l'opéra...
L'opérette.
Oui, mais vous voyez, moi, la dernière opérette, j'allais dire sociale que j'ai vue, c'est à l'opéra de Dijon, il y a 30 ans. Alors, c'était le père Philippi qui avait la concession de l'eau. Il était du Sud et qui avait la concession pour la ville de Dijon et le prêtait pour un fond symbolique l'opéra. Il lui donnait l'opéra. Alors, monsieur Philippi faisait les costumes avec sa femme, faisait la mise en scène. Quand il montrait un chanteur, ténor ou basse, il remplaçait. Et il chantait choriste, comme ça faisait un cachet de loin. Et les opérettes du dimanche soir, je me souviens d'avoir été avec les enfants. Mais ils étaient atterrés parce que tous les gens connaissaient l'opérette et ils chantaient en chœur. C'était extraordinaire. Et c'est, je pense, je vais pas vous raconter ma vie, mais moi j'ai connu quand même le théâtre du Châtelet où on donnait 8 fois par semaine une opérette de Lopez. Il y avait un corps de ballet, il y avait il y avait les animaux qu'on amenait tous les soirs de Pinder pour parce qu'ils jouaient. Il y avait toujours un âne, un lion, un machin, un éléphant. Et voilà. C'était plein tous les jours. Mais plein tous les jours. 2 fois le dimanche, on jouait. Voilà. Moi, j'ai connu ça, puis ça a disparu, vous savez. Et puis, l'opéra comique, c'est pas assez intellectuel pour le ministère de la Culture. C'est moyen. Et puis, le rire, c'est pas une chose sérieuse. Ben, je peux vous dire qu'avec Shirley et Dino, j'ai appris que c'était un métier vachement plus difficile que de faire de la tragédie. Parce que quand vous faites de l'humour, que ça tombe une seconde trop tôt, une seconde trop tard, ben, vous êtes bernique. Hein, une chanteuse qui meurt, elle peut mourir un peu plus tôt. Bon, ben, on tient le point d'orgue. Un peu plus tard, je tiens le dernier accord. Et puis, puis regarde bien si elle est morte. Mais quelle pitié! C'est-à-dire, il y a une marge d'approximation formidable. Le comique, et puis quand vous avez une troupe de 80 personnes, il faut régler les 80 personnes, plus les 40 qui sont derrière pour le rideau, la machine, l'éclairage, la fosse, la trappe, le machin. C'est un bins. Et bien, avec Shirley Dino, j'ai appris ça. Et quand c'est là, c'est pas là, c'est là.
Et là, pour le coup, c'est une musique extraordinaire aussi.
Ben, on a fait 2 spectacles. On a fait 2 autres qui ne sont pas connus, mais qui valent. Un jour, je vous montrerai les témoignages. On a fait Le Roi Arthur de Purcell, King Arthur. Et puis, on a fait Don Quichotte chez la Duchesse. Mais les 2 musiques sont extraordinaires. Et on a recomposé à notre sauce, mais d'ailleurs, ça le permettait parce que c'est une musique de scène, King Arthur, c'est-à-dire on n'a que les intermèdes musicaux d'une pièce de théâtre qui dure 5 heures. On peut redonner le texte, mais ça fait 5 heures, on n'est pas prêt actuellement. Donc nous, on a recréé notre histoire et puis on a pris les parties. Voilà. Don Quichotte, c'est la même chose, on n'a que la musique, mais on n'a pas les intermèdes parlés entre les actes. Donc on les a réécrits.
Hein ? C'est facile.
Non, mais c'est facile. Enfin. je vous rappelle quand même que le roi Arthur, on s'est vu avec Shirley et Dino pendant 10 mois, une journée par semaine, pendant 10 mois. On arrivait à 10h, on repartait, il était 18h. C'était un boulot de chien, même chose pour Don Quichotte chez la Duchesse, pour tout écrire, faire. Donc voilà, c'est vrai que c'est un spectacle très, 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 très chouette.
On va terminer. Vous êtes aussi le directeur artistique du Festival de Saint-Riquier.
C'est un problème ?
Non, je ne crois pas. Sauf si les gens dans la salle ne comprennent pas le Picard.
Ah oui !
Parce que c'est chez vous, en Picardie.
Oui, mais j'ai Picard. Je suis de Lobo. Et alors, c'est une histoire assez étonnante parce que je suis d'Abbeville, donc à 6 km de cette abbaye qui a été fondée par le petit-fils de Charlemagne. Donc, on a fêté il y a 4 ans les 1200 ans de la fondation de l'abbaye. C'est un haut lieu de la musique et du religieux en France, vraiment. Et on est en train de le découvrir pourquoi. Et donc, moi, je suis né à 6 km. Et puis, j'ai souvent servi le curé de Saint-Riquier. Je jouais de l'orgue, l'harmonium. D'ailleurs, il est mort, mais je me souviens encore qu'il me doit 5 francs pour un mariage qu'il ne m'a jamais payé. Parce mais que Dieu le marié et la mariée, enfin, la mariée pleurait. Je n'ai jamais osé aller demander mes sous à la famille. Enfin, bon, bref. Et quand maman est décédée il y a une dizaine d'années, j'ai vendu avec les frères et les sœurs, on a vendu la maison. Puis j'avais quelques amis, mais je n'avais pas d'idée de retourner là-bas. Bon. Et il y a 4 ans, puis ça faisait depuis que j'avais 20 ans que j'étais parti d'Abbeville. Il n'y a rien, je veux dire, chef à l'opéra d'Abbeville, ça se saurait si c'était une bonne place. Hein, bon. Et donc ça faisait plus de 35 ans que j'étais parti. Et il y a 5 ans, pour Istanbul, capitale européenne de la culture, j'étais dirigé avec le concert spirituel Fireworks de Handel à Saint-Irénée, dans le palais de Topkapı. Et c'était l'attaché culturel de l'ambassade de France qui nous avait invités. Donc elle m'a vu travailler avec mes troupes pendant un an, la façon dont gérer la chose. Et j'oublie. Et cette dame me rappelle en me demandant, écoutez, je suis nommée la directrice. Est-ce que vous voudriez reprendre la direction du festival ? Bon, alors je fais un audit avec elle, je fais 3 heures de réunion et à la fin je lui demande, mais pourquoi vous m'avez demandé de revenir à Saint-Riquier ? Elle me dit, parce que professionnellement vous êtes connu, j'ai vu comment vous travaillez, etc. Mais je lui dis, vous ne saviez pas du tout que je suis né à 6 km ? Elle me dit, non, j'ignorais absolument. Donc ça, c'était quand même une jolie histoire.
Ah hein. Oh, bah ouais. Hein.
Vous êtes de là-bas aussi ?
Eh bah ouais. Hein.
D'où ?
De Beauvais.
Ah, oh, c'est moins bien.
C'est moins bien.
Michi plus haut. Bon. Et donc, le Picard est une langue que j'ai parlé dans la famille de mon père. Parce que ma mère était de Dunkerque, donc... non. Hein. Mais de ma famille, de mon père, avec mes cousins, mes oncles et tantes, j'ai vraiment appris le Picard. Et j'ai pas de problème à comprendre le Picard. Et je voulais vraiment amener tout le monde à ce festival. Alors, le dossier de presse, je ne sais pas si vous l'avez reçu, les dossiers de presse, vous les recevez en français et à côté, la traduction en picard. Alors, à Paris, déjà, ils m'ont pris pour un branzingue. Et ensuite, pour la mise du concert du soir, c'est-à-dire on ferme les portes de l'abbatiale pour vérifier que tout est en ordre, hein, ça s'appelle une mise technique. Et donc, pendant ce temps-là, les gens attendent devant les portes. Donc, j'ai demandé à un aboyeur, un copain, qui est picardisant, d'expliquer musicologiquement en picard, à tous ces gens qui attendent, que je sais qu'on va entendre de swear. Alors, tous les Amiénois et Lillois qui arrivent là, bon, j'ai un peu étonné, parce qu'ils ont payé leur place quand même, ils viennent exprès pour entendre des grands noms et tout ça. Et tous les gens du coin sont ravis, mais ravis. Et ensuite, chic du chic, je suis quand même un peu pervers, comme on n'a pas de moyens, enfin, on fait des économies partout, je fais moi-même les programmes, une feuille... photocopier le programme très sérieux, hein, enfin très sérieux avec une présentation que je fais, le nom des artistes, le programme, et de l'autre côté, traduite en picard. Et là, j'ai vu dès le premier soir, les gens, ceux qui sont plutôt du coin, qui sont plutôt embêtés de venir au concert, ils s'étaient redressés de 20 cm parce qu'ils lisaient dans le texte. Puis chez gens des grandes villes, rien du tout. Et j'ai vu que chez Jean Ducoin, ils expliquaient à chez Péteux et puis chez Gogneux d'Amiens que je sais que ça veut dire. Et dans la salle, le premier soir, j'ai senti que c'était déjà comme ça. évidemment que ça c'est parti comme une traînée de poudre. Et moi, je trouve ça absolument normal. J'ai pas de souci. Et je me souviens, vous le direz pas, hein, la directrice était un peu anxieuse que qu'elle me propose, moi, type du coin, au président de région, ou au président du département, parce qu'il faut le prestige, le machin, tout ça. Et donc, elle était un peu embêtée. Je lui ai dit, laissez-moi faire, monsieur le président, j'en fais mon affaire. Je suis rentré dans son bureau, j'ai parlé immédiatement Picard. En 10 minutes, c'était torché, j'étais directeur du Festival de Saint-Étienne. Il était tellement content. Donc voilà, et je trouve que donc, pour moi, c'est pas une décoration, c'est pas un gadget, c'est quelque chose excessivement utile. Puis c'est toute ma jeunesse. Et puis, alors on a fait plein de choses autour de ça, tout naturellement, vraiment.
Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez programmer en juillet prochain ?
Ah ben ça, c'est déjà fait, ma brave dame, oui.
Oh bah.
Je suis en train de terminer 2018. Il faudrait vous réveiller. Mais vous n'aurez le dossier de presse, la presse qu'en temps et en heure.
Bon, donc pas de secret. Très bien. Merci beaucoup.
Bon, ben merci.
Et rendez-vous le 3 novembre, alors.
Ben j'espère. Merci.